Viva FM 101.8 Viva
Bonjour et bienvenue dans notre chronique juridique hebdomadaire « De quel droit ?». Chaque semaine, nous décortiquons une thématique, une notion ou une problématique juridique afin de vous informer sur vos droits et vos moyens d'action. Alors aujourd'hui, de quel droit allons-nous parler ? Eh bien du droit viager. Qu'est-ce qu'une vente, en viager ? Y a-t-il plusieurs types de viager ? Comment est fixé le prix ? Et qui paie quoi ? Telles sont les questions auxquelles je vais répondre, toujours en compagnie de la ravissante Jennifer.
Ravissante, je vous renvoie le compliment, chère amie. Maître Céline Lindo, aujourd'hui sur l'antenne de Diva FM, bienvenue à vous, chers auditeurs. Oui, le thème avec notre avocate expert qui sera abordé aujourd'hui, eh bien, c'est le viager. Et je disais hors antenne, la référence ultime de ce thème, c'est le film Le Viager avec Michel Serrault et Galabru. Et vous allez voir pourquoi je dis ça à la fin. Vous verrez, c'est pour, on va dire, la morale et la conclusion de cette histoire. Alors, maître, nous allons commencer avec ce thème fascinant encore une fois. Le viager, quelque chose qui, je pense, est de plus en plus présent, de plus en plus sollicité, pourquoi pas, et à penser pour améliorer le revenu eh bien des personnes à la retraite parfois et qui pourraient améliorer leur confort de vie. Alors, la définition tout simplement du viager, s'il vous plaît, Mme Céline Lindo.
Alors, qu'est-ce qu'une vente en viager ? Bon, le fait de vendre en viager consiste à vendre à un tiers un bien immobilier en échange d'une rente périodique. La rente, on le verra, peut être mensuelle, trimestrielle, annuelle, ça dépend de l'accord des parties. Et cette rente s'accompagne d'un paiement comptant lors de la signature de l'acte de vente. Et ce paiement comptant s'appelle le bouquet. Voilà. Donc nous sommes en présence de deux parties, le débit rentier, qui est en fait l'acheteur et qui va devoir payer une rente, et le crédit rentier d'autre part, qui est le vendeur et qui perçoit la dite rente. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Une fois que l'on a signé devant un notaire cet acte de vente en viager, eh bien, le paiement de la rente se poursuit jusqu'au décès du crédit rentier, et au décès de celui-ci, le débit rentier cesse les versements et entre en possession du bien sans aucune démarche supplémentaire à accomplir. Voilà.
Donc, c'est vrai que c'est... Alors, déjà, maître, il faut se dire que cette procédure, comme vous le disiez, j'ai noté surtout qu'il faut qu'elle se fasse avec un notaire.
Oui.
Voilà, on ne peut pas dire que c'est un agent immobilier. Alors, on peut être conseiller, j'imagine.
Oui, tout à fait. Ne serait-ce que pour avoir une évaluation et de la rente et du montant du bouquet en général. Donc déjà, pour revenir sur l'intervention du notaire, dans tous les cas, elle est obligatoire à partir du moment où on est sur
comme
un
acte. Tout acte de vente.
Voilà, de vente immobilière, l'intervention du notaire est obligatoire. Bon, l'agent immobilier, on peut faire appel à lui, bien sûr, si on cherche un acquéreur ou si
parce qu'il va nous permettre peut-être, comme vous disiez, d'estimer, parce que peut-être c'est lui qui va nous permettre d'estimer le montant de la vente. En fait, on peut le dire de la vente, tout simplement.
Alors, ben, comme la vente se compose de deux montants, de deux prix, à savoir le prix du bouquet et le montant de la rente, oui, on peut parler du montant de la vente, mais il y a deux notions. Une qui est ponctuelle, un versement comptant, et une rente qui a vocation à durer sur le long terme. Donc il y a des barèmes qui sont consultables donc plutôt chez le notaire. Hein, c'est lui qui va, sur la base de plusieurs critères qu'on va évoquer tout à l'heure, fixer donc le montant du bouquet et le montant de la rente.
Oui, parce qu'évidemment, il doit y avoir des facteurs déterminants. L'âge de la personne qui donc propose ce viager et peut-être aussi le montant. Il y a plein de, vraiment de choses comme
tout
ça.
Tout à fait. Bon. Bah, puisqu'on y vient, donc je vais les évoquer.
Allez-y.
Donc les critères qui permettent de déterminer le montant de la rente, ce sont effectivement donc l'âge du crédit rentier. Plus le crédit rentier est âgé et plus la rente sera élevée. C'est logique, parce qu'on se projette un petit peu moins sur le long terme avec quelqu'un qui a 80 ans qu'avec une personne qui a 60 ans.
Et oui. Voilà. Ça paraît logique, hein.
Tout à fait. La valeur du bien est une est un des critères d'estimation du montant de la rente. Le montant donc du bouquet, c'est-à-dire le montant que l'on va verser lors de la vente. S'il est plus élevé, eh bien le montant de la rente pourra être un petit peu plus faible. Et inversement, s'il est
c'est quelque chose que l'on peut déterminer nous-mêmes avec le notaire.
Avec le notaire, tout à fait. Oui, sur son conseil.
D'accord.
Donc voilà, le but c'est que ce soit équilibré pour les deux parties
bien
et
sûr.
Que il n'y ait pas une partie qui soit lésée, notamment la partie qu'il faut protéger, hein, à
oui.
savoir le crédit rentier. Et notamment le montant des loyers que pourrait percevoir le crédit rentier. Donc ça aussi, c'est un critère d'appréciation dans la fixation du montant de la rente. Je me permets de rétro-pédaler pour distinguer deux sortes de viagers. Donc il y a le viager occupé et le viager libre. Le viager occupé.
Donc on voit ce que vous allez dire.
Voilà. Donc le viager occupé, c'est lorsque le bien immobilier est toujours occupé par le crédit rentier.
Eh oui.
Voilà, qui conserve l'usufruit et donc l'usage. Il est présent, il vit là.
Et ça, c'est convenu aussi dans l'acte notarié, j'imagine.
Tout à fait.
Tout est écrit noir sur blanc.
Oui. Ou alors, donc, la deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle le viager libre. Donc là, dès la signature de l'acte, l'acheteur rentre en possession du bien. Il peut l'occuper, il peut le louer et en percevoir donc les revenus. Donc ce sont deux types de viagers différents. Par exemple, si on a un crédit rentier qui est en maison de retraite et qui voit un intérêt à percevoir une rente qui lui permettra de payer
sa
maison de retraite, il n'occupe pas le bien, et donc l'acheteur, lui, son intérêt, c'est de l'occuper...
Oui, soit personnellement, plutôt.
Tout à fait.
Vous disiez, pour le mettre en location.
Exactement. Donc voilà le distinguo. Alors, ensuite, il y a quand même une condition pour que ce soit... Parce que c'est assez sensible, hein, c'est quand même un contrat qui se fait sur la perspective de la mort d'une
pari,
des parties.
Hein, c'est un pari, presque, j'ai envie de dire, vraiment.
Tout à fait. Donc il y a quand même une condition, c'est que le décès du crédit rentier ne soit pas prévisible.
Vous voudriez dire par rapport à une maladie qui déterminerait...
Exactement.
Et pourquoi ?
Alors pourquoi ? Parce que déjà ça pourrait avoir vocation à détourner les règles de succession. Si on a une personne qui est malade, d'accord ?
Et son pronostic vital, il est de 2 ans, mettons.
Voilà. Qui va contracter un viager avec un tout petit bouquet pour une rente qui, au final, tout le monde sait qu'elle va durer 2 ans, la rente.
D'accord.
Pour une personne envers qui elle a un affect particulier, hein, on va dire peut-être que c'est son conjoint, mais c'est pas officiel. Bon. À son décès, le bien appartient au débit rentier, d'accord ? S'il n'y avait pas eu cet acte de vente en viager, ce bien serait tombé dans la succession et donc ce sont les héritiers, les enfants qui auraient pu en bénéficier. Exactement.
Ouais,
donc là, les héritiers, s'ils ont la possibilité de démontrer que le débit rentier avait connaissance de la perspective de la mort du crédit rentier, ils peuvent demander en justice l'annulation de cet acte.
Alors, il faudrait mettre, pour être précis dans cette démarche, que ça soit les personnes qui bénéficieraient de la succession qui fasse le recours, ou sinon, pour dire s'il n'y avait pas ces personnes-là, Personne ne voit le jeu, on va dire, il y a...
Dans tous les cas...
Personne ne peut porter le P, comme on peut dire ?
Oui, alors, dans tous les cas, les recours, pour faire un recours, il faut justifier d'un intérêt. Donc, évidemment, là, j'évoque l'héritier, le successible, mais toute personne pouvant justifier d'un intérêt dans le fait de faire valoir cet acte-là, cet abus, pourrait intenter une procédure civile. Par contre, sur le volet pénal, ce comportement-là peut aussi attirer l'attention du procureur s'il arrive à démontrer qu'il y a eu un abus de vulnérabilité. Quand on est vieillissant, on a peut-être tendance aussi à vouloir aider financièrement ou arranger les personnes qui s'occupent de nous, au détriment parfois des enfants qui vivent loin. Et donc, parfois, on a des personnes qui sont mal intentionnées et qui vont voir le patrimoine immobilier qu'on peut récupérer, tout ça. Bon, donc ça peut aussi tomber sur le volet pénal. Et pour répondre à votre question, donc le procureur peut poursuivre la personne s'il estime que cet acte de vente en viager est susceptible de caractériser une infraction. Après, il faut savoir.
Excusez-moi, maître, encore là où je veux en venir, c'est qu'il faut qu'il y ait encore quelqu'un qui porte l'information. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que une personne dans la vulnérabilité ou pas, on va dire, mais qui se sait condamné, qui n'a pas envie que ce bien tombe aux mains de l'État, parce qu'il n'a pas d'héritier, et de se dit, cette personne s'est occupée très bien de moi depuis X années, je vais lui proposer ce viager, mais elle sait qu'elle est condamnée. Est-ce que ça, c'est... Il y a, on va dire, c'est poursuivi alors, au pénal.
Déjà, il faut faire le distinguo entre la personne qui se sait condamnée, donc le crédit rentier se sait condamné.
Oui.
Si cette information est partagée avec le débit rentier est donc au courant également. S'il n'est pas au courant, sa bonne foi ne peut pas être remise en cause. Et puis libre au crédit rentier que de s'engager en toute connaissance de cause. Par contre, là où il y a un enjeu, c'est si il s'agit d'une manœuvre pour léser une autre partie. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est comme tout fait répréhensible. Il faut bien qu'à un moment, quelqu'un s'en aperçoive. Donc, si ça n'est pas...
Ça ne peut pas être l'État.
Alors, ça peut être l'État également. Ça peut être le notaire. Le notaire peut aussi s'apercevoir. Et d'ailleurs, il a un devoir de contrôle de la capacité juridique des personnes qui se présentent devant lui. Alors, il ne va pas demander des certificats médicaux pour savoir si la personne est malade.
Voilà.
Mais par contre, si on est en présence d'une personne qui est vulnérable, le notaire se réservera de recevoir son accord. Après, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que le voisinage, l'entourage familial, amical...
Ah oui, tout cet environnement-là peut...
Peut porter à la connaissance de la justice le fait qu'on est en train d'abuser d'une personne.
D'accord.
Mais donc, les situations sont multiples. On peut avoir une personne qui se fait abuser, une personne qui est consciente de son acte et qui est consciente de ses perspectives très court-termistes en termes de santé et qui va s'accorder avec le débit rentier. D'accord. Et donc là, je rétropédale puisque je voudrais être plus précise dans la réponse que je vous ai donnée tout à l'heure. Même lorsque le crédit rentier est conscient de sa santé, de son état de santé, les héritiers peuvent faire valoir le fait que c'est un détournement de succession. Donc c'est dans le débat. Après, ce sera à l'appréciation du juge.
Bien sûr.
Donc soit les deux se sont mis d'accord, soit c'est une manœuvre qui est unilatérale. Mais dans ce cas-là, les héritiers ont la possibilité effectivement de remettre en cause cet acte-là puisqu'ils se trouvent lésés dans leurs droits.
Après, si tout cela se passe là où je veux en venir ensuite, pour continuer, donc on a identifié les personnes. Vous disiez le crédit rentier et le débit rentier. Le crédit rentier, c'est donc la personne qui va se séparer de son bien et qui va le proposer en viager. Et donc, le débit rentier est celui qui va l'acquérir et qui va proposer cette rente viagère. Vous disiez, il y a un viager libre. Donc là, c'est au cas où on dispose du bien et lequel on peut en disposer pour y habiter, le louer, peu importe. Et après, vous disiez, c'est le viager
occupé,
là où donc le crédit rentier est encore dans le bien qu'on a acquéri. Donc, ça, c'est un fait. Vous disiez, s'il y a un genre d'abus, de faiblesse de personne, on peut, si les héritiers s'en aperçoivent, peuvent saisir la justice et en référer au juge. En revanche, si tout se passe bien, maître, qu'on a des héritiers, j'ai des enfants, mais je m'inquiète pour ma fin de vie, j'ai envie d'être sûr de pouvoir payer ma maison de retraite, je ne veux pas que ce bien-là soit dans la succession de mes enfants, je veux le mettre en viager. Je fais ce que je veux.
Oui, 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 oui. Chaque personne est capable de disposer de son patrimoine immobilier. Voilà,
je n'ai pas de compte à rendre sur ce fait-là.
Pas du tout.
En revanche, si on est propriétaire, mari et femme, l'un des deux est déjà décédé, peu importe qui, que ce soit le monsieur ou madame, donc je reste moi le seul vivant des deux parents, et on a vu dans notre émission de succession, les enfants ont une partie qui est donc légale de succession du parent qui est défunt. Là, comment ça se passe, maître ?
C'est-à-dire,
est-ce que je suis libre, là, cette fois-ci, de mettre mon bien en viager ? Puisqu'il y a une partie qui doit revenir à mes enfants du parent décédé.
Alors...
C'est un peu compliqué ce que je vous demande, maître ?
Non. On est dans le cadre d'un couple marié.
On est dans le cadre d'un couple marié.
L'un est décédé.
Tout à fait.
Okay.
Il reste un des parents vivants.
Voilà. Donc, il reste un des parents vivants qui veut mettre son bien en viager, mais il est, on va dire que...
Il y a une succession...
Soit il est en usufruit sur la totalité du bien, soit il a un quart du bien. Donc, dans tous les cas, le viager, on ne va pas mettre en viager le quart d'un bien.
Oui.
Donc, soit il s'accorde avec ses enfants avant pour récupérer la totalité du bien et pour le mettre en viager.
Ouais.
Soit la seule chose qu'il pourrait mettre en viager, c'est son quart de propriété.
Mais on ne peut pas.
Personne ne va s'engager là-dedans,
voilà.
Ça c'est sûr. Donc,
Il faut être... Non, mais ce que je veux vous dire par là, pourquoi j'en viens à ça, c'est de dire qu'il faut être quand même pleinement propriétaire.
Ah oui, oui.
Parce que parfois, ça arrive que des personnes pensent au viager quand elles se retrouvent veufs ou veuves et que du coup, elles se disent « Ah, mais j'ai plus assez de revenus. Peut-être qu'il faudrait que je mette en vente la maison, mais je pense que c'est le plus simple que de faire le viager. »
Alors, ça c'est une question d'opportunité. Après, le viager n'est pas la solution, effectivement,
non,
à tout.
Voilà.
Ça répond à un besoin sur le long terme, mais il faut effectivement que les conditions matérielles soient réunies. On peut avoir un viager sur la tête de deux personnes, un couple de personnes âgées.
C'est pas forcément qu'une seule personne.
Oui, les deux propriétaires. Voilà. Par contre, il y aura aucun acquéreur qui va se projeter sur un viager qui est la propriété d'une personne âgée et de ses enfants qui ont la quarantaine ou 50 ans. Donc ça, c'est même pas c'est pas du tout opportun économiquement. C'est ridicule.
Complètement. On est bien. Oui, là, on est pire que dans le film Le Viager.
Oui.
Alors pour dire donc ce viager, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on pense. Pourquoi on pense à ce viager? Quel est l'avantage supplémentaire à une vente classique ?
L'avantage supplémentaire, de rentrer en possession d'un bien, alors dans une perspective plus ou moins à court terme, mais en n'ayant pas versé la totalité du prix d'une vente classique au jour de l'achat.
C'est généralement ce qui se passe.
Oui, puisqu'on paye un bouquet et on paye une rente, ce qui fait que
on paiera pas le prix total. Vous pensez vu de la valeur vraiment
réelle. Ça dépend de la durée de vie.
C'est le film de la durée. Centenaire, vous n'avez pas de chance.
C'est un pari sur le futur.
Mais oui,
voilà.
Mais vous le conseilleriez, vous, maître, que ça soit pour... je ne vous demande pas de vous placer, mais pour dire... une personne est un petit peu dans le besoin, elle est seule propriétaire de ce bien-là. Vous lui conseilleriez le viager ?
Oui, par
contre... Plus que la vente ?
Alors, tout dépend des situations, bien sûr.
Alors, dans lequel vous diriez ?
Je repense à la personne qui est en maison de retraite. Elle n'a plus vocation à... Et alors, il faut savoir que, dans tous les cas, je vais prendre un exemple. Une personne qui est en maison de retraite et qui est sous tutelle. D'accord. Ouais. Elle a un bien immobilier. Ouais. Bon, on se dit, bah, elle peut, voilà, pourquoi elle ne vend pas, enfin, pourquoi le tuteur ne vend pas le bien immobilier, comme ça, ça fait de la trésorerie pour la dame, voilà, voilà. Bon, mais en fait, il faut savoir qu'il y a quand même un principe pour les personnes protégées, c'est que le patrimoine immobilier doit quand même être préservé, parce que c'est le plus gros patrimoine. Le plus longtemps possible. Donc tant qu'il y a de la trésorerie pour payer pour affronter les besoins de la personne, on va pas vendre son bien immobilier. D'accord. Parce que ça fait partie de son patrimoine et puis le jour du décès, ça fait partie aussi du patrimoine dont peuvent hériter les enfants. Mais par contre, à partir du moment où effectivement il y a plus de sous dans la caisse et que c'est difficile d'assurer le paiement de la maison de retraite, plutôt que de demander aux enfants encore une fois de l'assurer de ce paiement-là, on peut envisager la vente du bien immobilier. Donc après la vente, il faut que ce soit évalué. C'est un one shot, hein, c'est-à-dire va avoir un montant. Si on est dans le besoin, on va avoir tendance à vendre au premier venu. D'accord? La première offre qui sera pas forcément la plus économiquement rationnelle.
Avantageuse et tout.
Voilà, tout à fait. Donc le fait d'envisager un viager pour une personne âgée, c'est quoi? C'est le fait de lui assurer la stabilité, la sérénité. Et le fait qu'elle n'aura plus besoin d'aller chercher des fonds jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'elle est assurée de cette rente-là.
Surtout qu'en plus, parfois, ces fonds ne peuvent ne pas suffire aussi.
Aussi, c'est vrai.
Parce que ça peut... j'ai déjà vu des situations où la vente d'un bien, une fois tout réglé, n'est pas assez suffisante pour se dire ça nous projette sur 10 ans, admettons.
Exactement.
Alors que la rente viagère, tant que vous êtes vivant, là, elle vous assure ce revenu fixe et aussi une petite trésorerie au départ, puisque vous disiez, il y a un bouquet de toute manière qui est statué. Donc ça fait une petite trésorerie d'avance et en même temps, vous avez votre rente qui est sûre, comme une pension presque de retraite,
c'est
qui
ça.
Sera versée jusqu'à votre décès.
C'est ça. Donc moi, je trouve que c'est effectivement, si les conditions
sont réunies,
c'est une perspective qui assure une certaine sérénité pour les personnes âgées.
Bon, écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur les... Qu'est-ce que vous pouvez nous mettre en garde sur des procédures à bien respecter
Alors, donc, ça relève plus de la compétence du notaire qui, avec les parties, va pouvoir insérer dans les actes de vente certaines clauses. Alors, il peut y avoir une clause d'indexation de la rente. Oui, pour que la rente reste quand même proportionnée au niveau de vie, enfin au...
Mais elle est indexée annuellement?
Alors ça, c'est les indices INSEE, donc c'est quelque chose d'automatique, hein, c'est une indexation qui se fait automatiquement, ça peut être annuel. Donc le montant de la rente peut être indexé, après c'est pas des augmentations,
on passe
c'est
pas comme 2000 à 2000 euros.
Voilà, hein, exactement. C'est comme les indexations de pension alimentaire,
c'est
fait en fonction de certains indices qui sont fixés par l'INSEE. Donc d'une part, il peut y avoir ce type de clause, c'est pas obligatoire. Il peut y avoir également une clause de résolution en cas de non-paiement de la rente. Essentiel. C'est-à-dire que, à partir du moment où le débit rentier ne paie plus, le crédit rentier peut demander la résolution, retrouver possession pleine de son bien.
Et comment ça se passe dans ce cas-là? Alors, maître, s'il ne paie plus, vous dites qu'il retrouve la possession de son bien, mais le bouquet qu'il a perçu, est-ce qu'il faut qu'il le rembourse? Comment ça se passe?
Alors, ça dépendra encore une fois
du
cas d'espèce, mais le but de la résolution, c'est pas une résiliation. Résiliation, on revient en arrière et on rembourse tout, on remet les parties en état. Là, la résolution, c'est pour l'avenir, c'est-à-dire que c'est terminé. Le bien, n'est plus occupé, on va dire, par le débit rentier, si on est sur un viager libre, et chacun reprend ses billes. Après, le sort du bouquet, ça dépendra encore une fois et des discussions et de la décision du juge, mais on peut partir sur le principe qu'il reste acquis. Et ça aussi, c'est une clause qui peut être insérée dans le contrat, c'est une clause pénale qui peut être insérée dans le contrat où on dit, en cas de résolution.
J'y pensais pas, ça, maître. Vous avez bien fait Et oui, mais c'est vrai que on se dit, non, on est garanti de son paiement, mais pas forcément.
Et oui, effectivement. Donc, ça peut aussi faire l'objet d'une clause pénale qui prévoirait que, en cas de résolution, le bouquet resterait acquis au vendeur.
D'accord, donc ça c'est une bonne chose aussi à rappeler. Vous disiez après, il y a des particularités. Mmh. Bon, il y a le bouquet, ça c'est le bouquet de départ. Mais après, on disait qu'il y avait ça aussi dans le contrat, on peut dire qu'on paye mensuellement, trimestriellement, annuellement, ça peu importe.
Oui, effectivement, ça c'est vraiment ça, c'est en fonction de l'accord des parties.
C'est en fonction de l'accord des parties. Oui. Donc vraiment, je pense qu'on a tout abordé, que de toute manière, c'est une bonne initiative pour les personnes qui chercheraient à conforter des revenus, et bien au moins jusqu'à leur décès, c'est une garantie, ça c'est sûr. Il y a tout un process, on peut se faire conseiller par un agent immobilier qui est spécialisé dans le viager, qui vous proposera sûrement des acquéreurs, donc des débits rentiers, comme vous les appelez, et en tout cas, ça sera un acte comme tous les autres, vous passerez devant le notaire, maître.
On tout est bien à d'accord. fait.
Vous, vous intervenez à quel moment, maître, en fait ?
Et nous, on intervient très souvent quand ça ne va
ça
plus.
Ça va plus ?
Quand il y a un souci.
Quand ça ne paie plus. Quand
exactement. ou quand il y a une remise en cause, en justice, du viager, pour les raisons que je vous ai évoquées plus en amont.
Espérons que ça se passe bien, maître, alors, à chaque fois.
Mais hein, oui.
Allez, donc vous avez pu comprendre aujourd'hui que nous avons parlé de ce viager. Le viager qui est peut-être la bonne solution pour vous, chères mesdames, chers messieurs, qui peut-être voulaient conforter vos revenus. Voyez que vous pouvez même prendre conseil auprès de nos avocats. Ça aussi, c'est possible. C'est pas que vous êtes là que quand il y a des problèmes.
Non.
Mais on peut aussi...
On les évite parfois.
Voilà, on les évite surtout. C'est-à-dire, prenez les bonnes dispositions. Voilà, donc vous êtes dans cette perspective. Eh bien, voilà, vous serez le crédit rentier. Et celui qui acquérira votre bien sera le débit rentier. Avec soit le viager libre, soit le viager occupé. Donc, on a bien compris, le viager occupé, ce sont les personnes encore qui sont bien dans leur bien, avec plusieurs disponibilités, fonctionnalités, vous avez pu voir. Et si vous souhaitez un avocat, eh bien moi j'ai envie de vous conseiller Maître Céline Lindo, qui elle en plus a la particularité de travailler sur le territoire italien que sur notre beau territoire français. Maître, vous êtes donc sur Marseille, pouvez-vous nous rappeler vos informations pour qu'on puisse vous retrouver si possible?
Oui, avec plaisir. Alors, si vous avez besoin d'un conseil, d'une consultation ou d'un accompagnement, vous n'hésitez pas à nous contacter soit par téléphone 04 86 01 28 70 ou via le formulaire de contact du cabinet que vous trouverez sur notre site internet www.lindo-avocat.fr.
Voilà, vous êtes au 22 avenue du Prado, dans le 6e à Marseille, et tous les vendredis sur notre radio Diva FM pour le... Voilà, de quel droit hein ?
De quel droit ?
De quel droit ? Mais en tout cas, le droit aujourd'hui de la rente viagère. Nous vous remercions et vous souhaitons une excellente fin d'après-midi sur notre radio Diva FM, et nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain, maître.
À vendredi.
À vendredi. Diva FM.